Alors, nous n'avons pas beaucoup de jeunes, très jeunes parmi nous. Il y a une génération plus jeune que la nôtre, mais il n'y a pas la génération encore en dessous, là. Et alors, je le regrette un peu parce que sur la fin du message, c'est à eux que je m'adresse, mais ça fait rien. D'une part, ben voilà, j'espère que ça va être bien enregistré. Et puis, d'autre part, ben peut-être qu'on aura l'occasion de leur adresser directement à eux un message dès que on pourra organiser un culte des jeunes, hein, puisque, comme j'ai relu encore cette semaine, les enfants et les jeunes ont droit à leur culte. Ils ne doivent pas être privés de leur vie spirituelle, religieuse pour l'État. Donc, on pourra faire quelque chose pour eux, pour qu'ils puissent eh bien, recevoir la parole et puis entrer pleinement dans la vie que le Seigneur a prévue pour eux, comme chacun d'entre nous. Alors je prie et puis je vais lire des passages, je vais les commenter et eh j'espère que vous en retirerez un profit par l'Esprit du Seigneur, que ce soit l'Esprit du Seigneur qui soit à l'œuvre pour vous, dans vos cœurs, dans vraiment que quelque chose dans votre âme reçoive de sa parole. Oui, Seigneur, c'est bien pour cela que tu nous as appelés, pour cela que tu nous as réunis, pour nous transmettre ce qui vient de toi, Seigneur. Non pas la parole de l'homme, mais ta parole, ta vérité, ta sainteté qui est transmise, communiquée par ta présence, par le Saint-Esprit, Seigneur. Viens parler à nos cœurs. Viens parler au cœur de mes frères et sœurs ce matin, Seigneur. Oui, viens leur donner ce dont ils ont besoin pour être en toi, pour grandir en toi, pour être victorieux en toi, Seigneur. Bénis-les, je t'en prie, Seigneur Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au psaume 61, verset 3, nous avons ce verset. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Il y a là une impossibilité que nous allons voir, eh bien, qui est résolue par la prière, par la position de foi. Nous partageons tous ces moments et cette prise de conscience. Il y a une situation dangereuse, il y a une situation critique, il y a des attaques de l'ennemi et il y a, nous le savons, un rocher, un refuge, mais il nous faut atteindre le refuge. Et a priori, ce rocher, je ne peux pas l'atteindre. Alors, il y a ce psaume 61 et puis juste après, je ne l'ai pas lu en entier parce que bien sûr, j'y reviendrai de toute façon, mais on ne peut pas systématiquement tout lire intégralement les passages. Par contre, je vais vous lire intégralement le psaume 62 au chef des chantres d'après Jéduthun, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir aux mensonges. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent de leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence, ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Alors maintenant, passons à notre expérience à nous. Là où le psaume 61 commence par pousser un cri, « Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre !» Eh bien, le psaume 62 affirme d'emblée le salut de Dieu. « Oui, en Dieu mon âme se confie, de lui vient mon salut. C'est lui qui est mon rocher et mon salut. » Alors bien sûr, dans le psaume 61, il y a aussi de l'assurance. Par exemple, au verset 6, c'est « Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. » L'ennemi, le croyant, cherche un refuge face à l'ennemi. Et nous voyons David régulièrement dans sa vie en particulier, enfin, non, dans sa vie de roi qui n'était pas encore régnant et dans sa vie d'homme de roi régnant, être poursuivi par des ennemis, par d'abord le roi Saül, qui était là en place et qui ne voulait pas comprendre que David n'avait rien contre lui, voulait le laisser le temps que le Seigneur Dieu lui avait donné son règne. David ne cherchait aucunement à renverser Saül, mais Saül s'était trouvé en David un ennemi et voulait absolument l'abattre. Il l'a poursuivi à différents endroits et David a dû se réfugier dans des montagnes, dans des rochers pour être à l'abri de Saül. Et puis plus tard, il a aussi, lorsqu'il était régnant, dû s'enfuir devant la révolte de son fils Absalom. Et il a à nouveau dû grimper des montagnes, être dans la douleur et dans la recherche du refuge que Dieu pouvait lui apporter. Donc, voilà, le croyant, et David, donc c'est l'exemple suprême, mais le croyant donc cherche un refuge face à un ennemi qui le poursuit. Et l'ennemi de nos âmes, soyons simples, soyons clairs, c'est le diable. C'est celui qui nous fait tomber dans le péché, celui qui nous trompe, celui qui nous accuse, celui qui nous décourage. C'est lui qui nous poursuit, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Notre ennemi, c'est le diable. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les puissances et dominations qui sont dans les lieux célestes. Mais l'ennemi a à son service des quantités d'hommes qui veulent faire tomber le croyant. Et finalement, tous les hommes incrédules sont ligués contre le croyant à l'instigation du diable. C'est ce qui apparaît dans ce psaume donc 62. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme, chercherez-vous tous à l'abattre. Et effectivement, c'était des armées complètes qui se précipitaient pour assaillir David. Donc on peut dire qu'à terme, et on le voit dans notre psaume, qu'on ne va pas lire intégralement non plus, mais quand même, dont on va prendre des extraits, voilà, les attaques du diable contre le croyant passent également par les hommes qui sont incrédules et qui ne veulent pas recevoir le témoignage de Jésus-Christ. Car en fait, c'est cela, la situation est ressentie par le croyant lorsqu'il veut participer au règne de Christ. Parce que ce que le monde et le diable ne veulent pas, c'est du règne de Christ. Au psaume 61, il est question des jours du roi. Ajoute des jours aux jours du roi. Et il est question au psaume 62 du poste, celui qui a un poste élevé. Il conspire pour le précipiter de son poste élevé. Donc, ces psaumes sont écrits par le roi David, qui témoigne du règne du Christ. Et c'est en cela qu'il était poursuivi. Mais, comme le dit le psaume 16, verset 3, il y a dans le pays des saints qui sont l'objet de l'affection du roi. 16, verset 3. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Le roi aime ses saints. Le roi aime ses hommes pieux, ceux qui ont choisi de venir à lui, qui se sont mis sous sa bannière et qui bénissent ses jours, qui témoignent donc du roi qui est venu de la part de Dieu dans ce monde. Et il recherche donc avec le roi l'héritage de Dieu, ses saints. Quand le monde veut posséder son propre héritage, les saints veulent participer et recevoir l'héritage de Dieu. Et c'est votre cas, vous les convertis, vous les disciples de Jésus, et quelles que soient les attaques de l'ennemi, leur forme ou leur provenance, que ce soit des insinuations, des reproches, des méchancetés, que cela provienne de votre propre chair, que cela provienne des incirconcis de cœur, que cela provienne des profanes, des institutions humaines ou du diable lui-même, votre chemin de délivrance, eh bien, c'est le même que celui du roi. Et vous allez devoir trouver votre refuge et atteindre ce rocher pour être à l'abri de toutes ces manœuvres et ces accusations du diable et de ses cohortes. Et à la fin, au psaume 61, verset 9, non, je prends à partir du verset 7, ajoute des jours au jour du roi, que ses années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu, fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors, je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vœux. Voilà ce qui se produira lorsque le Seigneur aura délivré et voilà, mis à l'abri de toutes ces attaques du diable. Alors, nous allons reprendre ce parcours en allant voir dans 2 Samuel, chapitre 23, verset 1 à 7, puisqu'il était question de l'homme haut placé. Je vous lis ces dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, « Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages. Ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée, et offrant pleine sécurité. Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on prend avec la main, que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer ou du bois d'une lance et on les brûle au feu sur place. Celui qui règne parmi les hommes avec justice. » L'homme haut placé, le oint, le chantre agréable. Pourquoi le chantre agréable d'Israël de la part de David? Je crois tout simplement parce qu'il a chanté la bonté et la justice de Dieu à travers ses psaumes. Mais voilà, ce roi, cet homme haut placé, est appelé à régner selon la justice, à amener le règne de justice. Il est écrit que si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Plus exactement, d'après le passage de 2 Timothée chapitre 2, il nous faut d'abord être mort avec lui pour vivre avec lui, et ensuite persévérer. Alors persévérons et ne le renions pas, car dans le même passage, dans ce cas, lui aussi nous reniera si nous le renions. Celui qui persévère pour le règne de Christ ne peut que désirer régner selon sa justice. Puisque nous sommes appelés à régner avec lui, nous n'allons pas régner avec une autre justice que la justice de Christ. Donc nous nous armons déjà maintenant de sa justice, nous appuyons sur la justice de Dieu en Jésus-Christ. Nous ne voulons aucune autre justice que celle du Seigneur. Et nous la proclamons et nous la manifestons déjà. Et c'est là que nous sommes attaqués par les ennemis et que nous avons besoin du refuge. Lorsque nous désirons ce véritable règne de la justice, nous voulons participer au règne de la justice, nous le manifestons déjà maintenant, nous le montrons, notre attachement au règne de la justice, et l'ennemi n'en veut pas, et l'ennemi, parce qu'il ne veut pas du règne de la justice de Christ, nous attaque, nous qui la voulons. Au psaume 18, versets 32 à 34, nous pouvons lire, car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur les lieux élevés. Pour atteindre le rocher qui est haut élevé dans ces montagnes à la configuration compliquée, contrariée, avec toute cette difficulté de grimper sur la montagne tout simplement, il faut recevoir les pieds des biches. Et là, le Seigneur, en nous donnant les pieds des biches, va nous permettre de sauter de rocher en rocher, d'atteindre le refuge. On voit parfois, donc, dans les films d'Indiens et de cow-boys en particulier, les Indiens qui sont réfugiés sur les rochers. Et on peut dire un Indien qui s'appelle Pied Agile, lui, il va savoir sauter de rocher en rocher et atteindre l'endroit qui est inaccessible aux cow-boys. C'est quand même cette image-là. Recevoir de Dieu cette capacité, cette agilité, cette puissance pour grimper sur le rocher, atteindre l'endroit qui est le refuge. Le fidèle donc se tourne vers le rocher et il reçoit une force et une habileté pour atteindre son refuge sur le rocher. Habacuc 3,19 a la même expression, la conclusion du prophète Habacuc, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et je peux monter sur les lieux élevés. Cependant, son refuge élevé n'est pas un abri du genre cocon, parce que j'ai été un peu plus bas là. Au verset 35, il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. La position élevée, la position de refuge, permet de mieux combattre. Car le fait est que, de toute façon, celui qui veut le règne de la justice est poursuivi. Mais il est destiné à régner. Il n'est pas destiné à aller rester sur la montagne, se réfugier et puis attendre que les choses se passent. Non, il est destiné à régner. C'est votre vocation, ce que Dieu veut de vous. Et si nous suivons la suite de l'histoire, donc la suite du psaume 18, comme dans 2 Samuel 22, la suite de l'histoire, c'est la victoire sur toutes les haines, sur toutes les dissensions, sur toutes les violences. Celui qui s'est réfugié, qui a trouvé l'abri, est revenu combattre et il a triomphé de ses ennemis. Il a triomphé de la haine du monde. Il a triomphé de toutes les dissensions. Il a triomphé de toutes les violences qu'il y a dans ce monde. Alors, nous devons aussi avoir tourné nos pensées vers le prophète Ésaïe, qui a dit beaucoup de choses à ce sujet aussi. Et je vais au chapitre 33, versets 13 à 16. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant ? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles ? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Ah, ici, c'est un autre aspect des choses. Atteindre les lieux élevés, les rochers fortifiés, et donner à celui qui pratique la justice concrète. L'idéal de justice se traduit dans sa vie par des actes justes. Il n'a rien à faire avec tout ce qui se trame d'injuste dans le monde. Il est conscient de la puissance de Dieu, qui est aussi un feu dévorant. Et donc, il aligne toute sa volonté, tous ses actes sur la justice de Dieu, dans sa propre vie. Et cela est d'autant plus nécessaire que le refuge des lieux élevés n'est pas seulement une position stratégique humaine. Les lieux élevés, c'est le lieu et le moment de la rencontre avec Dieu. Cela est indiqué au psaume 61, au verset 4 que nous avons lu. Il est question donc d'une tour forte. Et donc tout de suite après, je reprends le texte, tout de suite après, donc tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. De même au psaume 27, au verset 6. Alors je prends à partir du verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel et pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel. Dans le tabernacle, David est protégé. Et alors même que sa tête s'élève sur ses ennemis, il offre des sacrifices dans la tente du Seigneur. Et il chante et célèbre son Seigneur. On peut dire que nous assistons à une sorte d'aller-retour entre le service d'adoration et le combat, qui donne l'impression que le tabernacle, en fait, il est sur cette montagne du refuge. Au psaume 73, le juste, pour comprendre la faillite des méchants, a dû pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. Alors, frères et sœurs, vous ne serez jamais victorieux sur une quelconque puissance ennemie qu'en étant conduit dans le tabernacle du Seigneur. Car que se passe-t-il dans le tabernacle du Seigneur ? Eh bien, vous rencontrez celui qui est descendu, le divin roi qui a combattu pour vous, Jésus qui a donné sa vie à la croix. Éphésiens, au chapitre 4, versets 7 à 10. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et que signifie il est monté ? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Oui, la montagne en feu, on peut dire le lieu initial de la révélation, a révélé un tabernacle, un lieu d'expiation du péché, qui nous permet d'être purifiés, renouvelés, justifiés, et de triompher de l'ennemi de nos âmes. Nous trouvons notre liberté en Jésus-Christ, qui nous a délivrés du pouvoir accusateur du diable, Hébreux, chapitre 2, verset 14. Le temps de le trouver. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Nous ne sommes plus dans la servitude, dans l'esclavage, sous la domination du diable, parce que Jésus est mort pour nous. Il nous a libérés de sa puissance d'accusation, premièrement. Et donc vous, vous serez vraiment victorieux à l'abri du rocher que lorsque vous serez dans la connaissance de celui qui est descendu pour vous secourir et si vous descendez avec lui. Nous aimerions rester sur la montagne avec Jésus comme Pierre qui, le voyant transfiguré, voulait planter trois tentes. Une pour Jésus, une pour les deux prophètes, déjà dans la gloire, qui en leur temps avaient bien souffert sur la terre, Moïse et Élie, et une pour eux, les apôtres. Mais non, il fallait redescendre et aller avec le Seigneur jusqu'à la croix. Pénétrer dans le sanctuaire de Dieu, c'est être en communion avec Christ crucifié, et mener sur la terre le combat de son amour. Lorsque Jésus dit dans l'évangile qu'il doit aller jusqu'à la croix, après il dit que celui qui veut être mon disciple se charge de sa croix et qu'il vienne après moi. Jésus est mort pour la vie du monde. C'était ça sa croix. Il est mort pour que le monde vive. Et nous, en prenant la croix, nous mourons à la vie du monde. Nous suivons Jésus et sa mort, elle opère dans notre vie, dans le temps que nous vivons sur la terre. Nous mourrons à la vie du monde avec Jésus. Et là, nous entrons dans sa victoire. Nous participons à son abaissement, nous renonçons à nous-mêmes pour être dans sa vérité. C'est dans la communion de ses souffrances que je le trouve victorieux et élevé au-dessus de tout. Et à ce moment-là, il rend mes pieds semblables à ceux des biches afin de rejoindre les lieux élevés pour me mettre à nouveau à l'abri de l'ennemi, mais revenir le combattre victorieusement. Parce que si je combats l'ennemi avec mes forces, je serai défait, je serai vaincu. Mais si je le combats en venant du sanctuaire, justifié, gracié, fortifié renouvelé par la grâce du Saint-Esprit de Dieu, à ce moment-là, je serai victorieux. Donc, trouver une foi refuge dans le tabernacle, c'est ne pas le quitter afin de participer au règne de la justice dès maintenant et dans la vie à venir. Aujourd'hui, ayant trouvé votre sécurité en Christ, vous êtes chargé d'étendre le règne de la justice. Et je vous en conjure avec tous les serviteurs de Dieu, faites-le. Vous le faites en témoignant de Jésus, en proclamant sa venue, en participant au rassemblement de son armée. Vous sonnez la trompette, vous réunissez les princes et les soldats du Seigneur par la prédication de la parole, par l'enseignement, par l'exhortation, par la manifestation des dons de l'Esprit, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et vous restez unis, humblement, pour servir Christ, l'Église et le prochain. Et là, vous remportez la victoire sur le diable. Alors, une nouvelle génération a besoin de recevoir le pied des biches. Elle ne peut plus se contenter de marcher sous l'oppression des pensées du monde et des désirs de la chair. Elle a besoin d'aller à la rencontre de son roi crucifié. Elle a besoin que nous le lui présentions, de trouver sa position céleste et de revenir combattre victorieusement le mal qui déferle. Jeunes gens, jeunes filles, gardez-vous du jeu de la séduction et des comparaisons humaines. Ne vous laissez pas dominer par l'esprit du jugement, soit celui que vous avez envers les autres, soit celui que les autres ont envers vous. Combien de jeunes sont morts parce que tout simplement ils ne supportent pas le jugement que les autres avaient sur eux. Ne cédez pas à la fatalité. Recherchez votre identité en Christ et agissez comme ses témoins. Alors j'emploie cette expression, votre identité en Christ, parce que c'est une façon de parler qui est assez actuelle. Mais plus simplement, affirmez que vous êtes chrétien. Et le simple fait d'affirmer que vous êtes chrétien, eh bien cela implique qu'à cause de votre Seigneur, cela vous élève au-dessus de ce monde. Si vous êtes chrétien, vous êtes avec Christ élevé, vous êtes au-dessus de ce monde pécheur. Par l'appel de Dieu, votre rapport au monde a changé. Vous étiez peut-être de simples citoyens français, plus ou moins participants au rayonnement de votre nation, plus ou moins bon élève, on peut dire ça comme ça. Comme vous étiez peut-être fils ou fille d'une bonne famille, forte de ses origines ou de sa tradition, mais par l'appel de Dieu, vous êtes devenu, ou vous deviendrez, chrétien citoyen français ou chrétien membre d'une bonne famille. Dans cet ordre-là. Parce que maintenant, vous appartenez à Christ et à votre Père céleste. Et cela vous donne, d'ailleurs, de bonnes qualités de citoyen ou de fils et de fille. Ce n'est pas le fait d'être chrétien qui va vous empêcher d'être un bon citoyen ou d'être un bon fils ou une bonne fille. Mais malheureusement, c'est une chose qui est difficilement acceptable au monde qui ne vous possède plus à ce moment-là et qui ne veut surtout pas, lui, être à son Père céleste. Alors, si vous, vous êtes d'abord à votre Père céleste quand lui ne veut pas l'être et qu'il ne veut pas que vous le soyez, forcément, ça va vous donner quelques problèmes dans ce monde et les attaques vont se multiplier contre vous, avec en particulier beaucoup de calomnies envers vous, pour vous faire passer ce que vous n'êtes pas, vous faire dire ce que vous n'avez pas dit, vous faites, etc., etc. Mais vous ne pouvez pas échapper à cette réalité. Maintenant, vous êtes chrétien. Vous êtes à Christ, vous êtes à Dieu le Père, et vous vivez comme tel dans ce monde, quelle que soit votre nationalité, quel que soit votre statut social, quelle que soit votre situation d'origine. C'est cela qui vous définit maintenant. Alors, les circonstances historiques évoluent. Actuellement, les circonstances politiques, économiques, environnementales, les perspectives ne sont pas brillantes. Mais alors là, pour celui qui est en Jésus-Christ, ce n'est vraiment pas le sujet, le problème. Le Seigneur sera avec vous, et parce que c'est lui qui est le maître de votre vie et le maître de tout. Et je voudrais terminer avec cette promesse qui demeure de Ésaïe chapitre 30, les versets 20 à 22. Ah, la situation mondiale peut se dégrader très fort. Mais voilà ce que le Seigneur vous dit. Chapitre 30, versets 20 à 22. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. C'est déjà dans l'autre passage que nous avions lu tout à l'heure, au chapitre 16. Je vais le retrouver. Non, c'était pas dans Ésaïe, c'était dans... 33, c'est ça, 33. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Et donc, dans ce chapitre 30, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Vous tiendrez pour souillé l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu en disperseras les débris comme une impureté. Hors d'ici, leur diras-tu. » Voilà, dans cette attitude de rejet de tout ce qui est de l'idolâtrie, des impuretés de ce monde, vous aurez l'assurance que le Seigneur sera avec vous. Il vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse, parce que votre Seigneur a triomphé de tout en descendant, en donnant sa vie à la croix et en étant ressuscité et élevé au-dessus de tout nom et de toute domination. Alors, je reviens au point de départ. Peut-être que nous avons besoin, maintenant, chacun d'entre nous, de faire une nouvelle expérience, de, on peut dire, changer de niveau, passer un cap pour arriver là où nous pensions ne pas pouvoir arriver, atteindre le rocher. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu, parce qu'à certains moments, nous réalisons notre faiblesse, notre détresse et notre incapacité face à l'ennemi. Mais en le demandant au Seigneur, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Et le Seigneur rendra vos pieds semblables à ceux des biches. Il vous mènera sur les lieux élevés. Et je voudrais qu'ensemble, nous y allions sur ces lieux élevés, pas seulement l'un ou l'autre, mais qu'ensemble, nous soyons vers, dans cette marche, dans ce désir d'aller vers le rocher, sur le rocher, de trouver notre abri. Et vraiment, et je vous en supplie à ce sujet, de communiquer cette pensée à vos jeunes et à vos enfants, pour qu'il ne soit pas dominé par l'esprit d'incrédulité et de défaite qui est en train de remplir la terre là, et vraiment que les enfants puissent former une génération qui connaît le Seigneur et qui connaît l'œuvre de la croix et qui triomphe encore dans les circonstances présentes de tout ce que le diable peut faire pour détourner les âmes et les perdre. Amen.